En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde dans RTL Soir, saison 2, épisode 22. Voici Marie Mollet, Stéphane Carpentier, Laurent Tessier, Lise Dugé, Greg Caranoni et Cyprien Sini.
C'est parti pour 45 minutes de grand direct pour une actualité détendue. On défait le monde, c'est tous les vendredis. Vous réagissez, vous commentez. Compte Twitter à disposition, la page Facebook de l'émission. C'est parti, voici avec Cyprien le sommaire.
Égalité homme-femme, mode d'emploi. Le monde du travail progresse, mais peut mieux faire. En écoutant On défait le monde, vous comprendrez pourquoi, malgré les lois, la situation évolue aussi lentement. Israël en pointe sur la vaccination. On se connectera avec Tel Aviv pour connaître le secret de ce miracle israélien. Le loser de la semaine, le grand perdant de Marie Mollet. Ce soir, Marie, c'est sur la croisette que vous avez trouvé votre cible.
Oui, le virus et le sort s'acharnent sur Cannes. Le tapis rouge va encore rester au placard.
Le billet retour de Brice du Génie quand on vous donne des nouvelles d'une info qui a quitté la une de l'actualité avec cette semaine une légende du basket disparue trop tôt, Brice.
Oui, un an après la mort de Kobe Bryant, que savent les enquêteurs américains?
D'ici 20h, évidemment, vos trois infos pour briller au dîner. Dans Marche ou Rêve, le pari fou d'un premier Vendée Globe sur le point de se réaliser pour Maxime Sorel, tout proche des Sables d'Olonne et qui sera avec nous grâce à la magie de la technologie. Et bien entendu, le jeu avec un week-end pour deux dans un hôtel de luxe de votre choix pour après le confinement. On défait le monde, saison 2, épisode 22.
Allez.
Vous l'avez pas utilisé cette semaine, Stéphane ?
Non, je ne m'en suis pas servi, exceptionnellement.
Alors, on défait le monde dans RTL Soir.
Et je précise sur ce générique qu'on a reçu des messages sur le compte Twitter.
Incroyable.
Il y a des gens qui se mettent à chanter ça maintenant avant d'aller partir bosser. C'est formidable.
Ou dans la cuisine même en ce moment quand ils écoutent en direct. Surf de la semaine avec Cyprien Sini. C'est parti, il n'y a que des belles choses sans doute.
Ah bah encore une bien belle semaine hein, qui a démarré par cette ode au génie français.
Pasteur qui renonce finalement à son vaccin. L'Institut Pasteur décide d'arrêter.
Et là, on tombe de l'armoire, on marche sur le scolopendre. Pasteur qui ne trouve pas de vaccin. Mais je comprends pas. Pourtant, certains nous avaient expliqué en avril dernier à propos de ce virus.
L'heure est grave. L'heure est très grave. À qui profite le crime? Là, voilà la question. Je vous donne la réponse. Institut Pasteur qui avait l'antidote. Le virus aujourd'hui est là, juste pour le fric.
Bah oui, c'est Pasteur qui avait créé le virus exprès pour nous vendre des vaccins. Ça tombe à l'eau quand même. C'est bizarre quand même. Bon après, celui qui risque d'être le plus embêté par l'échec de Pasteur, ça reste quand même Nicolas Dupont-Aignan, qui expliquait à propos du vaccin ARN de Pfizer, le concurrent.
Je préfère perdre 2 mois plutôt que de partir dans une aventure hasardeuse.
Donc vous ne vous ferez pas vacciner?
Sûrement pas avec ce vaccin. J'attends le vaccin Pasteur. J'ai une très grande confiance dans l'Institut Pasteur.
Ouais, bien vu Nico. Il a du nez quand même. Hein. Il sent bien les coups, il n'y a pas à dire. Et pendant ce temps-là, les maîtres du monde se font un sommet économique de Davos en virtuel. Intervention d'Emmanuel Macron en direct de l'Elysée avec Klaus Schwab, le patron de Davos, le Gotha de la finance, a les yeux rivés sur cette intervention et...
...hétérogène, Monsieur le qui Président. Se donne les mêmes objectifs pour avoir des résultats.
Dans toutes ces choses, il y a aussi...
Je vous ai perdu, Klaus. Cher Klaus, je vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus.
Klaus est devenu statue. Klaus est figé. Le président est seul et ça dure longtemps. Longtemps.
Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas nous qui avons des problèmes? J'ai rien oublié, j'ai pas dit de... Klaus, je vous revois, mais je vous avais perdu.
Non, Klaus, vous êtes de retour. Et là, on se dit qu'il doit peut-être y avoir un léger souci de Wi-Fi, de Wi-Fi à l'Elysée. Puisqu'il y a 3 semaines, au moment du sommet pour la planète, visio avec Ursula von der Leyen, la chef de la Commission européenne. Et...
Chère Ursula, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Ursula, on ne t'entend pas, tu dois être en mute. On ne t'entend pas, Ursula. Le micro, manifestement, est coupé dans les deux sens. On ne t'entend pas. Le micro est coupé. Est-ce que quelqu'un, sinon, peut appeler les équipes à Bruxelles?
Oui, ou alors dire à Brigitte qu'elle arrête de regarder Salto. Ça use toute la bande passante, ça capte plus à l'Elysée. Bref, finalement, on vit quand même un peu tous avec les mêmes problèmes, quoi. Enfin, dans le monde. Enfin, pas tous dans le même monde quand même, hein, puisqu'il y a le PS, vous voyez, le Parti Socialiste, avec le patron Olivier Faure qui déclarait hier...
La crise sanitaire vient de mettre fin à 40 années de domination idéologique des libéraux.
Oui, 40 années de domination idéologique, 40 ans que le PS subit une domination idéologique, mais on est bien en 2021 là, 40 ans, bah, si, il y a 40 ans.
3, 2, 1, François Mitterrand est élu président de la République.
Cette victoire...
est d'abord celle des forces de la jeunesse.
Ah bah oui, c'était il y a 40 ans, et alors depuis, il a fait deux mandats, puis...
François Hollande est devenu le 7e président de la 5e République.
Ah bah oui, sans oublier entre-temps...
Jospin a été reçu à l'Élysée, qui lui a proposé le poste de Premier ministre.
Et donc ?
À 40 années de domination idéologique des libéraux.
Décidément, le concept de réalité virtuelle est bigrement efficace. Enfin, terminons comme on a commencé, en célébrant le génie français avec ce sondage, paru hier, écoutez bien, c'est formidable.
62% des Français se disent favorables au principe du confinement et seulement 14% sont prêts à accepter les restrictions.
Voilà, donc on est majoritairement pour le confinement, mais sans contrainte, quoi. C'est confinement à composer soi-même. Alors vive la France et surtout vive-moi la semaine prochaine.
Ah, c'est du 100% français. Le sort de la semaine, c'est Cyprien Cini. Vous retrouverez tout cela après l'émission dans le podcast de On défait le monde.
On défait le monde sur RTL.
La grosse info ce soir, Cyprien, c'est le sujet qui nous a intéressé, c'est l'égalité femmes-hommes au travail.
Oui, puisque cette semaine, on vous a beaucoup parlé des 10 ans de la loi Copé-Zimmermann qui impose des quotas de femmes dans les conseils d'administration. Alors, ça marche, hein. Elles étaient 20% il y a 10 ans, elles sont aujourd'hui 45% à siéger dans les conseils d'administration. Une avancée, certes, mais Brice, on constate régulièrement que dans les autres échelons de l'entreprise, les inégalités, elles sont toujours réelles.
Oui, en préparant d'ailleurs l'émission, deux statistiques nous ont interpellés sur la place des femmes dans l'entreprise et plus globalement dans le monde du travail. La première, c'est que parmi les femmes qu'on appelle, vous savez, les femmes au foyer, 60% disent qu'elles préféreraient avoir un travail rémunéré, que ce serait plus épanouissant pour elles. L'autre chiffre, c'est que plus de 80% des emplois à temps partiel sont aujourd'hui occupés par des femmes. Alors évidemment, ça pose la question de l'égalité d'accès au travail, du déséquilibre entre les sexes dans l'entreprise. Donc cette question, nous l'avons posée à Dominique Méda, elle est sociologue spécialiste de l'égalité homme-femme au travail. Pourquoi, selon elle, ce décalage ?
Les enquêtes montrent très clairement qu'à l'arrivée d'un enfant, vous avez 40% des femmes qui changent quelque chose dans leur vie de travail. Ça veut dire que peut-être elles vont passer à temps partiel, peut-être elles vont s'arrêter de travailler, alors que c'est le cas que de 6% des hommes. Tout ça va aboutir à ce que les femmes ramènent moins de revenus. Eh bien, c'est quand même plutôt la femme qui devra s'arrêter à nouveau au deuxième enfant. Et on a comme ça une sorte de cercle vicieux, de spirale négative en quelque sorte, au détriment des femmes, et qui aboutit à ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire en effet des inégalités très fortes.
C'est donc social, inhérent à la vision du rôle de chacun, à l'organisation du monde du travail et de la cellule familiale, puisque c'est donc à la femme aujourd'hui encore que revient ce qu'on appelle la charge mentale, le fait de tout organiser, tout penser et tout régler.
Ok, mais alors on peut se dire qu'une fois que cette période est passée, elles peuvent reprendre là où elles étaient arrêtées en fait.
Bah oui, on peut se le dire, mais en fait, c'est pas si simple. Parce que l'absence, ou même le temps partiel, même sur une durée déterminée, eh ben, ça a des conséquences très étendues dans la carrière. Et ensuite, il est difficile, voire impossible, de continuer, vous savez, une progression professionnelle linéaire, comme le décrit Dominique Méda.
Tout arrêt dans une carrière est quand même pénalisé, parce que dès qu'une femme, mais d'ailleurs bien sûr un homme aussi, mais dès qu'une femme se met à temps partiel, on lui confie moins de responsabilités, on considère qu'elle n'est pas apte à exercer certains postes de responsabilité, et donc en plus de la pénalisation en termes de revenus, je dirais, elle va avoir une pénalisation en termes de progression de carrière et d'accès à des postes de responsabilité. Donc oui, ces interruptions de carrière, ce sont des choses qu'elles vont traîner tout au long de leur vie active.
Alors cela ne se fait pas du jour au lendemain, c'est pas un supérieur qui va vous dire tout d'un coup oui ou non, c'est beaucoup plus lent, c'est plus pernicieux et ça s'installe doucement. Et ensuite, il est difficile, même impossible, de revenir à une situation initiale et donc à ses ambitions professionnelles.
Du coup, Brice, comment faire changer cela ?
Alors, on le disait tout à l'heure, avec la loi, avec les obligations sur la représentation des femmes dans les conseils d'administration, ça a fonctionné. Il faut renforcer le cadre législatif, c'est-à-dire pour s'assurer qu'un employeur a l'obligation de laisser un salarié, on l'entendait pour un temps partiel, les mêmes responsabilités, ou alors de lui permettre de retrouver son poste, c'est-à-dire vraiment son poste après une absence. On pense notamment au congé maternité. Alors, il y a des tests qui existent, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas toujours appliqués. Parfois, il faut aller devant un juge, c'est long, c'est compliqué. Et puis, certaines entreprises ne les appliquent pas sans être sanctionnées. L'autre solution, ce serait évidemment de faire évoluer la place de chacun dans la société et donc dans l'entreprise. Dominique Méda.
Évidemment, en repensant radicalement les conditions d'exercice du travail pour les hommes et pour les femmes. C'est-à-dire qu'un employeur devrait considérer que l'arrivée d'un enfant, elle doit être entourée de la même manière et elle doit entraîner des congés, des aménagements horaires de la même façon pour la mère et pour le père.
On voit d'ailleurs que c'est un phénomène qui est en croissance dans la société. De plus en plus de pères prennent un congé parental. Le gouvernement a d'ailleurs décidé que le congé paternité passerait de 11 à 28 jours à partir du 1er juillet. C'est-à-dire que si les hommes s'absentent par exemple à l'arrivée d'un enfant, envisagent ensuite une répartition différente de leur vie entre temps de travail et vie privée, pour un employeur, privilégier un homme par rapport à une femme n'aura plus vraiment d'intérêt. Et ça pourrait rééquilibrer un petit peu les forces. C'est toute une vision de la société qui doit changer. Ça va prendre du temps et en attendant, on le disait, la loi peut aussi accélérer un peu tout cela.
Brice Dugénie pour le décryptage de cette grosse info dans On défait le monde. Oula, j'ai du mal avec les voyelles et les consonnes ce soir.
On vous précise qu'il y a un peu de décalage parce que Brice n'est pas en studio avec nous puisqu'il revient des États-Unis et donc, comme il respecte la loi, il fait la septaine.
Absolument.
Voilà.
Je respecte la loi. Merci Cyprien.
Il le fait bien. Dans un instant, c'est la première info pour briller au dîner. À tout de suite.
Ça, la septaine, il adore.
RTL Soir, On défait le monde. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
19h31, c'est la première de ce soir dans Défait le monde.
C'est pardon, Sef, je vous interromps.
Je vous en prie.
J'écoutais juste avant qu'on prenne l'antenne la promo du grand studio d'Éric Jean-Jean là.
Ouais.
Avec Benabar, ouais. Exactement. Et je me disais que heureusement que Benabar n'a jamais écouté les infos pour briller parce que sinon, il aurait peut-être jamais écrit sa chanson Le Dîner. C'est vrai. Vous savez, ce dîner auquel il n'a pas envie d'aller. Ouais. Moi, je dis ça parce que. Avec une info pour briller, on a forcément envie d'aller à tous les dîners qu'on nous propose. Voilà. Enfin, je trouvais que c'était une bonne motivation. Ouais. Je vous fais part de ce qui se passe dans ma tête. C'est cadeau. Excusez-moi de vous avoir interrompu.
Non, je vous en prie. On peut retourner à Marie donc avec la première info pour briller au dîner ce soir.
Marie, le micro.
On va chez les immortels, c'est ça.
Oui, on va à l'Académie française qui a élu hier le successeur de Jean d'Ormesson. C'est une femme, la romancière Chantal Thomas, qui occupera le siège numéro 12. Et avant d'entrer sous la coupole, elle devra prendre l'habit d'académicien, le costume vert et surtout l'épée. L'épée faite sur mesure, chaque immortel choisit la sienne dans les moindres détails, avec bien souvent des idées complètement farfelues, voire délirantes. 1989, le commandant Cousteau entre à l'académie et brandit triomphalement son épée.
Elle est en cristal de roche, un élément naturel. Elle rappelle le défenseur de l'Antarctique, avec les pingouins le protecteur de la nature, l'explorateur des océans, le cinéaste, la pellicule s'enroule autour d'un poulpe.
Donc la pellicule s'enroule autour d'un poulpe. Pourquoi pas, mais il n'est pas le seul à effectivement choisir quelque chose d'aussi farfelu. De l'eau de mer emprisonnée dans la lame pour Jacques Rougerie, un profil d'Orphée en guise de pommeau pour Cocteau et dernière fantaisie en date, signée Barbara Cassin, une épée sabre laser façon Jedi.
Elle est passionnante cette info pour briller au dîner.
C'est pour plaisir quand même.
Et vous, vos épées d'académicien, ça ressemble à quoi?
Pas grand chose.
Moi je mettrais le sigle de l'OM dessus.
Merci. Et elle a quand même une petite archive, elle aime beaucoup les archives.
Moi j'aime beaucoup les archives.
Petite pépite.
Excusez-moi. Enfin, vous allez trouver que je focus un peu sur cette histoire de chanson.
Voilà.
Non, mais attendez, c'est vrai. Typiquement, moi, je trouve qu'après une info pour briller comme celle de Marie, je suis sûr qu'il aurait eu la motive pour aller à son dîner, Benabar. Un dîner dont tu ne voulais pas entendre parler, ça deviendrait une hâte. Vous imaginez un peu la chanson?
Ouais.
Elle aurait été certainement plus courte, c'est vrai, mais.
Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, j'ai pas d'idée. Heureusement, maintenant j'ai une info pour briller.
C'est pas la classe.
Il est fort.
Ah, il est fort.
Elle aurait été vraiment plus courte, mais elle valait la peine.
Ah ouais.
J'en profite pour remercier Benabar et toute l'équipe qui nous a fait ce clin d'œil. Et si vous voulez écouter des chansons de Benabar plus longues, bien sûr, vous pouvez écouter le grand studio de Eric Jean-Jean demain sur RTL.
Il s'est fait plaisir, Greg. Il est trop fort. 19h33, on le défait le monde à la suite.
Allume la lumière.
C'est Allume la lumière, c'est le moment où un expert vient éclairer l'actualité.
Et ce soir, on se tourne vers ce qui a l'air de marcher, à savoir la vaccination en Israël. On nous dit que 35% de la population a déjà reçu la première dose de vaccin, 15% les deux doses.
Résultat, les premiers effets positifs se font sentir, une chute spectaculaire de 60% des hospitalisations des personnes âgées.
Alors, pour mieux comprendre cet effet vaccin, on se connecte à Tel Aviv avec le professeur Cyril Cohen. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université Bar-Ilan, près de Tel Aviv. Vous êtes aussi membre du conseil consultatif sur les vaccins au ministère de la Santé israélien. Professeur, est-ce qu'on peut dire que chez vous, on assiste aux premiers effets positifs de la vaccination de masse ?
Je tiens à dire oui, enfin je pense que oui, parce que ce qui est en train d'arriver, c'est que nous avons des premières données qui nous montrent très clairement que les personnes qui sont vaccinées et qui ont complété la vaccination, c'est très important de le dire, vous savez, les deux doses à 3 semaines d'intervalle et puis attendre à peu près 1 à 2 semaines après la deuxième dose, donc ces personnes-là sembleraient être nettement moins touchées par la Covid-19.
Quel est selon vous le secret d'Israël? Parce que Israël semble réussir là où tout le monde a échoué. C'est quoi? C'est l'organisation? C'est la logistique? C'est quoi la bonne idée israélienne?
Je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Il faut dire qu'on s'y a pris à temps. Hein. Moi, je vois, depuis le mois de juin, on a commencé à parler des vaccins parce que pour nous, c'est la seule stratégie qui est viable. On a commencé à entrer en négociation avec les compagnies qui développaient des vaccins. On a signé beaucoup de contrats à l'avance. Israël a fait un pari. Et donc, en fait, ça a été la première phase. La deuxième phase, ça a été la phase logistique en Israël pour s'organiser quand ces vaccins arriveraient. Et la troisième phase, évidemment, c'est le public qui a été très motivé pour se faire vacciner. Si avant que les vaccins arrivent, les gens hésitaient un peu et que 30% étaient prêts à se faire vacciner. Aujourd'hui, on parle quand même de 90% qui sont prêts à se faire vacciner. Et on a établi très rapidement en Israël 400 sites de vaccination un peu partout en Israël. Vous en avez partout. Et le miracle, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle chez nous les koupot rolim, c'est les caisses maladies. Chaque Israélien est immatriculé dans une caisse maladie. Vous rentrez sur ordinateur, vous fixez votre rendez-vous. Et en général, ça vous prend à peu près 2 minutes. Et vous avez votre rendez-vous dans la semaine qui suit. Et vos deux rendez-vous, on vous prend déjà vos deux rendez-vous et les gens ont juste à arriver, se faire vacciner et je sais pas, ça prend à peu près 1 heure ou 2 heures et puis c'est fini. Et il faut dire aussi qu'on a quand même un partenariat avec Pfizer dans le sens où eux, ils ont besoin de nos données. On communique nos données aussi bien à Pfizer qu'à l'OMS pour aider justement à mieux comprendre ces vaccins, pour aider à comprendre et à cibler les populations qui en ont vraiment besoin. Et donc, en fait, ça nous a aidé à avoir des doses. Il faut dire aussi qu'Israël est un petit pays comparé à l'Europe. Donc nous, on a besoin de beaucoup moins de doses que le reste, je dirais, du monde.
En fait, c'est un peu comme un test, une phase de test grandeur nature que vous faites.
C'est un peu, et il faut dire que le public est pour, mais une fois de plus, oui, dans un sens, je reconnais qu'on est un peu le labo du monde à ce niveau-là.
Vous parliez tout à l'heure de la population israélienne et vous disiez que de 30% de personnes favorables au vaccin ou souhaitant se faire vacciner, vous seriez passé à 90%. À quoi vous attribuez ce changement d'état d'esprit? Et est-ce que vous pensez que dans d'autres pays comme le nôtre, ça pourrait être le cas?
Écoutez, je vais vous le dire sincèrement, ce qui s'est passé, du moins en Israël, c'est qu'en fait, il y avait des gens qui étaient pour directement, parce qu'ils avaient confiance en leurs experts, donc il y avait une part qui avait confiance, il y avait une part qui était hésitante, je dirais à peu près du 40%, qui se disait, bon, on va laisser les premiers se faire vacciner, et puis s'ils vont bien, ben nous aussi on va le faire, et donc ça s'est tout de suite rajouté, et la part des, entre guillemets, anti-vaccins, il y en avait qui ne voulaient pas se faire vacciner, parce qu'ils avaient un peu peur, mais quand ils ont vu que ça allait mieux, eux, ils se sont décidés, on a quand même un petit foyer d'antivax en Israël, alors qu'en France, j'ai vu que vous en avez un foyer, c'est pas un foyer, c'est un peu plus élevé. J'ai entendu parler de ce film Hold Up. Après 3 minutes, j'ai compris que c'était vraiment de la propagande non basée sur des faits scientifiques. Donc, si c'est un truc comme ça qui circule en France, vous êtes un peu mal barré. Ouais. Excusez-moi.
Enfin, pour l'instant, on n'a même pas assez de doses pour vacciner ceux qui veulent se faire vacciner. Ça va finir par venir, on l'espère en tout cas. Merci d'avoir allumé la lumière.
Je l'espère aussi.
Hein. Ouais, merci d'avoir allumé la lumière sur les premiers effets concrets de la vaccination de masse en Israël, professeur Cohen. Bonne soirée.
C'est moi, avec grand plaisir. Bonne santé à tous.
On a appris plein de choses. On défait le monde 19h38.
À suivre dans On défait le monde.
Une deuxième info pour embrayer, pour faire plaisir à Benabar, le loser de la semaine et surtout le jeu The Game. A tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Tout à l'heure, c'était Marie avec ses épées. À présent, c'est Laurent pour parler ciné.
Ouais, il y a 38 ans, cette semaine, Louis de Funès nous quittait. On ne compte plus tous ses chefs-d'œuvre. Le gendarme de Saint-Tropez, Fantomas, les aventures de Rabbi Jacob, la soupe au chou, évidemment, la grande vadrouille. Et souvenez-vous de l'une des scènes cultes du film. Louis de Funès se retrouve sur les épaules de Bourville. Ils sont tous les deux habillés en soldats. Au départ, l'acteur devait tomber sur son partenaire qui tenait en laisse les bergers allemands. Mais Louis de Funès grimpe alors sur les épaules de Bourville, improvise un gag qui fait rire absolument toute l'équipe. La scène est gardée. Elle sera même l'affiche du film que vous connaissez par cœur. Une belle anecdote, n'est-ce pas?
Ah oui, c'est bien.
C'était voilà. Très bien, c'était, bravo.
Voilà, c'était la chute normalement.
C'était parfait.
Non, c'était très bien.
Info pour envoyer au dîner signé Laurent Tessier à 19h40.
RTL. Le loser de la semaine.
Alors évidemment, cette semaine, avec l'échec de Pasteur dans la course au vaccin et les licenciements chez Sanofi, il était tentant de faire de la recherche Made in France le grand perdant de la semaine. Sauf que dans cette émission, on aime vous surprendre. Résultat, Marie, c'est une institution, que dis-je, un mythe, à qui vous décernez le prix du loser de la semaine.
Eh oui, car on l'a appris... mercredi.
Le Festival de Cannes est reporté au mois de juillet, finalement, en raison de la pandémie. C'est ce que viennent de faire savoir les responsables du Festival de Cannes.
Encore raté, nouveau report pour le festival qui, décidément, passe l'une des pires années de son histoire. Pourtant, en janvier dernier, l'édition 2020 s'annonçait mémorable. Un jury qui en jette...
Le prochain président du jury du Festival de Cannes, c'est Spike Lee.
Et des dates fixées bien à l'avance.
Thierry Frémaux, on rappelle vite les dates de Cannes
du mardi, parce que maintenant on commence le mardi 12 mai au dimanche, ou samedi soir, pardon, 23 mai.
C'était peut-être l'indice, ce bégaiement, car deux mois plus tard...
Il ne faut pas se leurrer, le confinement sera très probablement prolongé et le Festival de Cannes d'ailleurs en a tiré les conséquences.
Impossible de l'organiser aux dates prévues du 12 au 23 mai en raison de l'épidémie.
Thierry Frémaux, le délégué général et ses équipes évoquent une réflexion sur un possible report.
Encore l'espoir d'un report balayé 10 jours après.
Les annonces du président ont emporté leurs derniers espoirs, celui d'une édition pouvant avoir lieu sous sa forme initiale.
Alors en guise de lot de consolation, Cannes a tenu en octobre un mini-festival avec 4 films projetés. Ça ne fait pas rêver. Un mini-jury a bien décerné une palme d'or, une seule, celle du court-métrage. Mais sur scène, le membre du jury n'a pas réussi à se souvenir du titre. Il a fallu lui apporter le programme pour qu'il annonce le vainqueur. Bref, mettez Cannes 2020 aux oubliettes.
Et donc pour 2021, Cannes n'aura pas lieu en mai, comme c'est la tradition.
Oui, cette année, au mois de mai, vous ne verrez pas les délices de la croisette, le tapis rouge, les interviews poignantes de stars américaines en bas des marches.
Charlize. Bon, j'ai essayé de faire Charlize Theron, mais c'est pas gagné.
Ouais, compris.
Les interviews poignantes des acteurs français en bas des marches.
Et Vincent Lindon, je vais essayer d'avoir un petit mot. Vincent. J'ai du mal à m'entendre. En même temps, il y a beaucoup de bruit. Vous en rendez peut-être pas compte chez vous, mais c'est extrêmement compliqué de faire des interviews ici.
Alors si on s'en rend compte, en mai vous ne verrez pas non plus la sélection de films époustouflantes, films qui souvent nous donnent la niaque, la banane.
Le premier long métrage d'un jeune réalisateur de 32 ans, il s'appelle Abou Choki. C'est l'histoire d'un lépreux qui a passé toute sa vie dans une léproserie et qui décide de sortir de cette léproserie pour aller essayer de retrouver sa famille et de retrouver ses racines. Alors c'est vrai que le sujet a l'air grave.
Non, c'est hilarant, ni ces célèbres réalisateurs que le grand public connaît par cœur.
Un cinéaste, un jeune cinéaste chinois, Diao Yinan, dont nous avions montré le premier film. Celui-là s'appelle Nanfang Chejiang. Des jus, oui.
Non, vous ne verrez pas Cannes en mai, il faudra attendre juillet si tout va bien.
Le titre de loser de ce vendredi soir adressé par Marie Mollet. On a un cadeau pour les auditeurs les plus fidèles, évidemment, il est 19h43.
Attention, moment de joie et de bonheur.
C'est l'heure de Monsieur Cadeau.
Voilà Benabar. Oui, en plus de faire des blagues avec Benabar, Grégory Caranoni, Monsieur Cadeau, qu'est-ce que vous offrez ce soir?
Un séjour de 2 nuits grâce au coffret Hôtel et Préférences. Alors en fonction de la destination que vous choisirez, vous pourrez séjourner dans un des 4 ou 5 étoiles parmi un choix de plus de 150 établissements. Alors pêle-mêle, vous pourrez aller en Corse, en Normandie, en Nouvelle-Aquitaine, au Pays de la Loire. J'ai l'impression d'être Miss France. En Corse, en Normandie, en Nouvelle-Aquitaine, dans les Pays de la Loire. En tout cas, si vous voulez avoir un avant-goût de ce que vous pouvez, du week-end que vous pourrez passer, vous allez sur hôtelpréférenceaupluriel.com.
Fabuleux. La fameuse question dont défait le monde. On en parlait tout à l'heure. Comment s'appelle l'institut sur lequel on comptait vachement pour avoir un vaccin et qui a abandonné ses recherches? Est-ce que c'est Pasteur, ma sœur ou ta sœur? L'institut Pasteur, l'institut ma sœur ou l'institut ta sœur? Vous avez la bonne réponse, 32-10, c'est cadeau, on tirera au sort pour partir en week-end après le confinement, ça va être formidable.
3-2-1-0, c'est parti, le standard est accessible, 19h44.
RTL Soir, on défait le monde.
Le billet retour, le droit de suite quand on vous donne des infos sur une info justement qui a disparu de l'actualité.
C'était à la une il y a un an, quasiment jour pour jour. Dans la nuit du 26 au 27 janvier 2020, une info dramatique qui allait avoir un retentissement planétaire.
Ladies and gentlemen, a tragedy has befallen the world of basketball.
Kobe Bryant, la légende de la NBA, s'est tué en hélicoptère.
8 autres personnes ont péri dans cet accident, dont sa propre fille.
Le monde de la NBA est sous le choc.
Une superstar, une icône.
Kobe Bryant was killed in a helicopter crash.
La légende du basket, Kobe Bryant, accompagné de l'une de ses filles et de 7 autres personnes, perdait la vie dans un accident d'hélicoptère. Après le drame, on a surtout pointé du doigt le brouillard épais qui planait sur les collines de Los Angeles ce jour-là. Un an après, Brice, est-ce que les enquêteurs ont rendu leur rapport final ?
Alors non, l'enquête n'est pas terminée. Le bureau qui en est en charge aux États-Unis, c'est le NTSB, le National Transportation Safety Board. Si vous voulez, c'est l'équivalent du bureau enquête accident en France. Et les conclusions finales sont attendues le 9 février et ils promettent d'expliquer les causes de la chute de l'hélicoptère. Mais on sait déjà beaucoup de choses car de nombreux rapports ont été publiés au fil des mois. On sait par exemple que le pilote n'avait pas bu d'alcool, qu'il n'était pas sous l'effet de drogue et que l'hélicoptère n'a montré aucune défaillance technique. On sait aussi, vous le disiez, que les conditions météo étaient catastrophiques et que l'hélicoptère, eh bien, n'aurait pas dû décoller dans ces nuages. Selon les enquêteurs américains, en fait, le pilote aurait été désorienté et victime de ce qu'ils appellent une illusion somatographique. Alors l'illusion somatographique, c'est la sensation pour un pilote d'hélicoptère de prendre le d'altitude, c'est-à-dire de monter avec l'appareil, alors qu'en fait l'hélicoptère ne fait qu'accélérer horizontalement. C'est-à-dire il cherchait à éviter les collines, il pensait qu'il allait les éviter et en fait, eh bien il va les percuter. L'autre élément que révèlent les rapports d'enquête, c'est que ce pilote était certes expérimenté, mais qu'il n'avait pas les compétences pour voler aux instruments, vous savez, c'est-à-dire sans visibilité, à l'aveugle, dans le brouillard. Il faut se fier uniquement aux informations données par les appareils embarqués et ils ne savaient pas le faire. Certains témoins décrivent d'ailleurs, c'est écrit dans les rapports, un hélicoptère qui allait à droite à gauche, perdu dans les nuages, à très basse altitude, quelques secondes avant le crash.
Et puis Brice, ces mêmes enquêteurs écrivent qu'ils avaient mis en garde les sociétés d'hélicoptères aussi. Hein.
Oui, parce que ce bureau, le NTSB, a également un rôle de conseil en sécurité. Et ces dernières années, ils avaient préconisé, conseillé aux exploitants d'hélicoptères transportant plus de 6 passagers, c'était le cas en l'espèce, de les équiper d'un radar qui permet de savoir en permanence où se trouve le sol et d'alerter le pilote en cas de danger. Eh bien, cela n'avait pas été fait sur ce modèle d'hélicoptère. Les enquêteurs écrivent que cela aurait permis d'éviter le crash concernant Kobe Bryant. Mais les exploitants ont toujours refusé de le faire. Ils estimaient que le système n'était pas efficace, que contestent les enquêteurs, mais aussi surtout, c'est un système qui coûte de l'argent et ça, les exploitants ne voulaient pas investir dans ce système.
Brice, en un an, au niveau judiciaire, il s'est passé des choses ?
Alors oui, il y a des actions judiciaires qui ont été ouvertes. Alors il y a celles qui concernent directement l'accident. Par exemple, la femme de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, a déposé plainte contre cette société Island Express qui exploitait l'hélicoptère. Les familles des autres victimes ont fait la même chose. Ils reprochent tous à l'entreprise, évidemment, ses négligences sur la sécurité. La société d'hélicoptère elle-même, elle a porté plainte contre les contrôleurs aériens parce qu'elle estime que c'est eux qui sont responsables. Et puis il y a d'autres poursuites un peu annexes qui sont même parfois un petit peu glauques. C'est que la femme de Kobe Bryant, elle a attaqué le shérif du comté de Los Angeles, car les premières personnes qui sont intervenues sur les lieux de l'accident et qui étaient sous ses ordres ont pris en photo le cadavre de Kobe Bryant et le shérif a, semble-t-il, couvert ses pratiques. Il a donc été relevé de l'enquête. Depuis, le gouverneur de l'État de Californie a signé une loi qui interdit aux premiers secouristes de prendre des clichés personnels. Et puis, il y a un dernier volet, c'est que selon la presse américaine, il y a des procédures au sein même de la famille de Kobe Bryant pour des histoires d'argent, parce qu'évidemment, le joueur en gagnait énormément, entretenait quasiment tous les membres de la famille. Et avec son décès, eh bien, les intérêts se révèlent. Il y aurait déjà une dizaine de procédures ouvertes, une quarantaine d'avocats sollicités, et cela devrait durer plusieurs années.
Billet retour un an après la disparition tragique de Kobe Bryant. C'est signé Brice du Génie dans On défait le monde. 19h48, troisième info pour briller au dîner dans une poignée de secondes. À tout de suite.
On défait le monde sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
À 19h50, c'est avec Cyprien Sini, cette troisième info pour briller au dîner. On parle voiture.
Oui, on a appris cette semaine la fin de la production de la mythique Renault Twingo. Et oui, terminée la bonne vieille Twingo, présentée au salon de l'auto en 92. Alors, on s'en est parfois moqué avec sa forme de grenouille et ses couleurs criardes et improbables. Mais qu'est-ce qu'on l'a aimé quand même. Bref, vous savez d'où vient ce nom de Twingo?
Ouais, moi je sais.
Ah ouais? Parce que vous avez lu le truc.
Non.
Ah ouais?
Ah non,
Renault voulait une voiture joyeuse.
Mais faites le test.
Non, parce que si c'est ça, ça va flinguer mon effet. Renault voulait une voiture joyeuse, pleine de gaieté. Elle a failli s'appeler Maya, puis Ipso. Ah oui. Et finalement, c'est en compilant le nom de trois danses que les têtes pensantes de la marque aux losanges sont tombées sur Twingo. Ils ont contracté Twist, Swing et Tango. Et ça fait Twingo.
Eh ouais.
Elle est Stéphane.
Bien. C'est une bonne info pour Brie.
Je confirme. Non, mais c'est Christophe Bourreau, notre spécialiste, qui me l'a raconté cet après-midi.
Ah, bah non.
J'ai aucun mérite.
En plus, cet après-midi.
En plus, c'est vraiment cet après-midi. 19h51.
Marche ou rêve.
Marche ou rêve, on prend des nouvelles du Vendée Globe, évidemment. On parle de voile.
Oui, c'est notre feuilleton. Hein. On a suivi tout le long du Vendée Globe. Maxime Sorel, il vivait un rêve. C'était son premier tour du monde à la voile sur VNB Mayenne. Et alors, Yannis Bestaven a gagné.
Quel cauchemar quand il le décrit.
Oui, bah on va voir. Il en est où, Maxime Sorel, mon cher Laurent?
Allez, il n'est plus très loin de l'arrivée de la fin de son Vendée Globe. Nous avons pu le joindre cet après-midi. Bonsoir, Maxime.
Bonsoir.
Alors, quand est-ce que vous avez prévu d'arriver au Sable d'Olonne?
Eh bien, dans la nuit. Là, j'ai mon dernier routage qui m'a donné une ETA à 4h TU. Donc, 5h en local là-bas, tout juste pour rentrer dans le chenal. Parce qu'il faut rentrer avec la bonne marée et on peut rentrer jusqu'à 7h.
Et alors, dans quel état vous êtes? Parce qu'on vous a suivi tout le long. Est-ce que là, ça sent la quille quand même? Vous sentez que vous arrivez là?
Ouais, ça sent quand même vraiment l'écurie. Après, là, je suis en train de cravacher. Ça fait 4 jours que je cravache comme un dingue pour passer devant une énorme dépression. Une des plus grosses dépressions de cet hiver, hein, qui est vraiment violente. Donc, c'est un peu une course contre la montre parce que si j'arrive pas à rentrer au sable, ça va être vraiment une grosse galère.
On s'était parlé la veille de votre départ et vous nous aviez dit ça, souvenez-vous.
Moi j'ai un bateau d'ancienne génération, il est de 2007. Faut savoir qu'il y a quand même un bateau sur deux qui abandonne, hein, il y en a 33 au départ. Et faut savoir aussi que depuis que ça existe le Vendée Globe, il y a moins de 84 personnes à l'avoir fini. Il y a plus de 500 personnes à être allées sur l'espace. Et en fait ce qu'on prépare, on peut se dire que c'est quasiment plus dur que d'envoyer quelqu'un sur la Lune.
Bon, est-ce que là vous êtes presque sur la Lune?
Ouais, j'ai l'impression que je vais bientôt poser le pied sur la Lune, effectivement. C'est assez dingue. Je vous avoue que je réalise pas du tout, en fait. Je viens de faire le tour du monde. Ça fait plus de 82 jours que je suis en mer. J'ai l'impression d'être parti hier et que là, je suis en train de finir une régate. En plus, dans le top 10, alors ça, c'était même pas inespéré au départ. Même rêvé, j'aurais pas osé.
Vous avez l'air de nous décrire des dernières heures extrêmement difficiles. Vous vous attendiez à une fin aussi dure et globalement sur le tour du monde, est-ce que c'est pire que ce qu'on vous avait raconté?
Ouais, franchement, c'est bien pire. On a vécu une édition assez extrême. Moi, c'est ma première, donc je peux pas trop dire. Mais les anciens le disent, apparemment, oui, c'était vraiment extrêmement dur au niveau météo. Et là, je vous avoue que j'avais imaginé les dernières 48 heures un peu cool. Et notamment la dernière nuit où j'allais vraiment pouvoir relater un peu tout ce que j'avais fait pendant ces 80 jours. Et bah là, même pas en fait. J'ai le couteau entre les dents, j'ai même pas l'impression de revenir d'un tour du monde, quoi.
Il paraît que quand on arrive à la fin du Vendée Globe, on a le droit de commander ce qu'on veut à manger. Vous savez ce que vous voulez, vous, ou pas?
Ouais, j'ai commandé une pizza dès le passage de la ligne. Une pizza pepperoni, fromage, comme à New York, pareil.
Est-ce que le retour à terre, il se prépare aussi? C'est-à-dire dans les dernières heures avant de franchir la ligne, je comprends bien que là, vous avez encore beaucoup à faire, mais est-ce que vous préparez psychologiquement le fait d'avoir été dans la solitude aussi longtemps et après, vous allez être assailli par vos proches et puis par plein de gens?
Ouais, alors j'ai déjà préparé un peu le sujet parce que c'est vrai que voilà, j'ai une compagne, c'est assez rude quand même de partir autant de jours en mer. Je sais que ce Vendée Globe m'a déjà changé, je ne sais pas de quelle manière, je le saurai plus tard je pense. Je vais pas être aussi causant que ce que je pouvais être au départ. Je vais avoir besoin de prendre du recul, d'être un peu seul et c'est vrai que c'est assez particulier. Et puis aussi j'ai eu il y a 2 jours une espèce d'angoisse en fait de la situation qu'il y a à terre. La situation sanitaire, c'est pour quelqu'un qui vient de faire 80 jours en mer dans une boîte en carbone, on a envie d'une liberté totale. Et là, de me dire, je dois remettre un masque et peut-être que je vais me reconfiner dans une maison, j'hallucine en fait, j'ai un peu du mal à y croire.
Et justement, à ce sujet, c'est marrant que vous parliez de ça, il y a un humoriste sur RTL, Philippe Caprivière, qui a fait un sketch et il a dit ça.
Ne rentrez pas. Ne rentrez pas. La vie, c'est de la merde. Faites demi-tour. Si vous arrivez au Sable d'Olonne après 18h, vous allez prendre 135 euros. Repartez en mer.
Ah, j'espère que vous avez reçu le message comme ça.
Effectivement, on en a parlé avec l'équipe. J'aurais dit, bon les gars, j'ai pas mangé toute la bouffe. Je pense que j'ai de quoi faire une transat pour 3 personnes. Alors, je passe la ligne et puis on va aux Antilles.
Bon, en tout cas, c'était super de vous suivre tout le long.
Bravo à vous. Ouais.
On croise encore les doigts pour cette nuit et puis on espère se retrouver sur Terre. On vous invitera évidemment pour débriefer ce tour du monde. Merci encore, Maxime.
Bah, super, on se retrouve à Paris très vite. Merci beaucoup.
Super client.
Allez, formidable.
Quelle aventure formidable. Une gagnante ce soir.
C'est Agnès de Bordeaux, malheureusement. malheureusement, on n'a pas le temps de la prendre en antenne. On est hyper à la bourre, on s'excuse, mais elle a gagné un super séjour à l'hôtel.
Bravo Agnès.
Bravo, bravo Agnès, Agnès. Et on l'embrasse très fort, on la remercie pour sa fidélité.
Ciao. C'était On défait le monde ce vendredi soir. Toute l'équipe revient évidemment vendredi prochain. Et toute l'actualité
la
arrive dans quelques instants. Il va être 20h.
Et restez bien à l'écoute.